Sadaqallah al-Azim pour ces versets du Coran, donc récités par Cheikh Abdel Wadud Hanif. Donc voilà pour cette introduction à l'émission La Prophétie. Il y a eu pas mal d'appels, donc des auditrices et des auditeurs, au sujet de l'appel que j'ai formulé tout au début de l'émission, au sujet de l'organisation de Couscous, hein, Couscous pour tous, une de nos activités de l'association Rencontre et Dialogue, qui pour les week-ends de la période d'hiver, notamment les dimanches, organise donc des couscous qu'on distribue aux nécessiteux, et notamment aux réfugiés ici sur Roubaix. Exceptionnellement, on le fait là, une grande opération pour ce week-end, c'est-à-dire pour dimanche, où on va distribuer plus de 300, à peu près 350 repas aux réfugiés qui sont parqués dans des situations et des conditions très difficiles sur Calais. Donc on remercie toutes les personnes qui ont participé à, qui vont préparer ce couscous et qui ont proposé leur aide. Et d'ailleurs, j'ai eu d'autres personnes qui nous ont appelé, on les remercie, pour organiser les prochains couscous. Par ailleurs, certains commerçants nous ont aussi appelé pour faire part de leurs dons, que je vais citer tout de suite pour les remercier en direct. Donc on a la boucherie Sous de Tourcoing et le Mabouk du côté de la Fosse aux Chênes à Roubaix, qui nous ont déjà fourni quelques de la viande. Boucherie à Marie aussi, aux Trois Ponts, qui nous a proposé, et on remercie de venir nous servir comme bon nous semble, en agneau ou en poulet, donc pour organiser ce couscous. Toujours à Marie, la boulangerie qui nous propose, notamment pour ce week-end, donc une centaine de bouteilles qu'on va distribuer aux nécessiteux et aux réfugiés sur Calais. Donc on remercie à l'ensemble de ces commerçants et à l'ensemble des préparateurs et des préparatrices, donc pour leur don de marchandises ou bien de leur temps. On les remercie, qu'Allah les gratifie au plus haut pour le Shabbat. Donc sans plus attendre, je vais juste faire une transition et mettre une conférence de Hassan Nkusen.
On va entrer dans le vif du sujet. Donc le thème d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui sera un nouveau défaut de l'âme. Le but de cette série de conférences est, Inch'Allah, de purifier l'intérieur. Les musulmans ont tendance, à tort et à raison, bien sûr, de mettre le paquet sur l'extérieur et l'apparence. Ainsi, on va aux toilettes, on est très minutieux, pour éviter que des souillures ne souillent nos vêtements, ce qui est très bien. Je crois qu'il y a des limites, il ne faut pas tomber dans la parano, sinon que vous compliquez la vie. De même, quand ils veulent faire leur prière, font attention au lieu où ils vont se prosterner pour qu'il n'y ait aucune souillure, ce qui est très bien, quand il ne faille pas non plus chercher la petite bête. Mais, quand il s'agit des défauts du cœur, ils ont moins d'entrain, moins de volonté pour essayer de purifier leur cœur. Pour quelle raison? La première des raisons, c'est que ils ne connaissent pas la vraie valeur des péchés du cœur. On croit que les péchés extérieurs ont plus de poids que les péchés intérieurs. Et on pense, par exemple, que le fait de boire de l'alcool, c'est plus grave que de faire un acte de religion avec une mauvaise intention. Le fait d'agir, de prier ou de jeûner pour une autre personne que Dieu, donc ça s'appelle du shirk, du petit shirk, du riya, ostentation, manière de se montrer, c'est pire que de boire de l'alcool. L'alcool, c'est un grand péché, certes, mais le manque de sincérité est plus grave. Le zina, c'est mauvais, c'est évident, mais la haine, la jalousie, c'est aussi grave, c'est mauvais que le zina. Ainsi, on devrait revoir nos textes pour comprendre que les péchés du cœur sont plus dangereux pour le devenir du croyant que les péchés du corps. Sont plus dangereux parce qu'on ne connaît pas leur vraie valeur, et deuxièmement, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile de purifier ses vêtements, son corps d'une souillure matérielle, que de purifier son cœur d'une souillure spirituelle. On a des défauts, des mauvaises habitudes, c'est beaucoup plus difficile de se débarrasser de ce défaut que de changer un vêtement. De même qu'il est beaucoup plus facile de porter un vêtement que de s'imprégner d'une qualité ou de pratiquer des actes de religion avec sincérité. Et troisièmement, on a tendance malheureusement, ceux qui parlent ont tendance malheureusement, à mettre plus l'accent sur l'aspect extérieur que sur l'aspect intérieur. Alors que l'intérieur est plus important que l'extérieur. Les trois premières personnes qui vont brûler en enfer sont le savant, le martyr et le généreux. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils faisaient sur terre, prodiguer le savoir, combattre pour la cause de Dieu, en apparence, et donner aux pauvres, sont des actes, tout le monde est d'accord, qui sont louables, voire même parmi les plus louables. Mais le manque de sincérité est à l'origine de leur perte. Vous voyez très bien que c'est le moteur qui est plus important que la carrosserie. Dieu regarde nos cœurs avant de tenir compte de nos cœurs. C'est pour ça que Dieu dit dans le Coran, délaissez les péchés extérieurs et les péchés intérieurs. Les deux, l'intérieur et l'extérieur, doivent être purifiés en permanence. Alors parlons aujourd'hui d'un défaut du cœur dont il faut absolument se débarrasser, ou plutôt essayer de se battre pour se débarrasser de ce défaut. On a vu l'hypocrisie, on a vu le gaspillage. Aujourd'hui, nous allons voir la colère, le rabat. Alors, il y a deux types de colère. Il y a la bonne et il y a la mauvaise. La colère est naturelle. C'est partie de la nature de l'homme. Dieu nous a créés avec ce sentiment, comme il nous a créés avec d'autres sentiments, avec d'autres envies, d'autres pulsions. La question n'est pas de se poser est-ce que c'est bon ou c'est mauvais, le fait que la colère fasse partie de notre nature. La bonne question est comment dois-je faire pour que cette colère soit positive. Comment faire bon usage? Les compagnons sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont soumis un problème. Ils ont dit au prophète, Dieu nous a créés avec l'envie sexuelle. Et ces envies sexuelles nous perturbent. Et ils ont proposé une solution qui est la castration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les corriger en leur disant les envies sexuelles font partie intrinsèque de la nature de l'homme, ne sont pas un mal en soi. Car Dieu ne crée pas le mal. Dieu ne veut pas le mal. Ça devient un mal quand vous en faites mauvais usage. Mais si vous faites bon usage de votre texte. Ça devient un acte d'adoration, puisque le hadith dit très bien, ce que vous mettez votre zèle dans votre femme, c'est une sadaqa. Étonné, lui dire, comment? On se fait plaisir, et ça compte comme une aumône. Il a dit, mais bien sûr, puisque lorsque vous commettez l'adultère ou la fornication, c'est un péché. Donc la colère en soi n'est pas bonne ou mauvaise. Tout est une question de comment gérer sa colère. Si elle est bien gérée, elle est nécessaire, elle est utile, elle est bonne, voire elle est obligatoire. Et parfois, elle devient mauvaise, inutile, dangereuse, interdite. Et d'ailleurs, vous pouvez appliquer cette logique avec toutes les choses de ce bas monde. Les savants ont dessiné une grille dans laquelle vous allez justement évoluer. Une chose est soit haram ou avec notre extrême halal, autorisé. Donc, elle est haram, interdite, ou elle est obligatoire. Ou déconseillée, ou recommandée, et puis, au milieu, la neutralité, moubah, autorisée. Ainsi, la colère peut être haram, comme elle peut être obligatoire, comme elle peut être recommandée, déconseillée, comme elle peut être neutre. Et à nous de jongler et de nous adapter et d'adapter notre colère aux situations. Pourquoi? Pour plaire à Dieu. Car la colère peut nous rapprocher de Dieu comme elle peut nous éloigner de Dieu. Et on dira la même chose d'autres sentiments, d'autres volets de la nature de l'homme. Ainsi, le hadith que vous connaissez dit qu'un homme a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Aussi, conseille-moi où envoyer de Dieu. Le prophète lui dit la tarda, ne te mets pas en colère. Il demande à nouveau un conseil et le prophète répète le même conseil, la tarda, ne te mets pas en colère. Et il a répété ce conseil à plusieurs reprises. Ce hadith signifie-t-il que l'être humain ne doit jamais se mettre en colère? Non! Car le prophète se mettait en colère. Vous avez une dizaine, une vingtaine, une trentaine de hadiths où les compagnons disent « Et le prophète se mit en colère, ses joues devinrent rouges. Quand il parlait, il se mettait parfois en colère. Il a vu quelqu'un faire quelque chose, il s'est mis en colère, etc. etc. » Mieux, vous avez des versets du Coran et des hadiths qui disent que Dieu aussi se met en colère. Le verset du Coran, vous récitez au minimum 17 fois par jour, qui dit que Dieu est en colère. Ghayril maghdoubi alayhim. Ghayril maghdoubi alayhim. Ceux qui ont encouru la colère de Dieu. Dieu est en colère contre eux. Vous les connaissez, ces gens-là? Hein? Non? Vous n'avez pas de chance? Bref. Dieu est en colère contre eux. Pourquoi est-il en colère contre eux? À cause de leurs actes. Ils tuaient des prophètes sans raison. Comme s'il y avait une raison valable pour tuer un prophète. Mais admettons qu'il y ait une raison valable. Je veux bien qu'il tue ce prophète. Mais le comble, c'est qu'il tue sans raison. Il mérite vraiment la colère de Dieu. Et c'est quoi la colère de Dieu? La colère de Dieu signifie que ils n'auront pas droit à la miséricorde divine. C'est ça que signifie la colère de Dieu ici. Et le mardon vers l'aïe, c'est ils sont fuis. Ils sont maudits. Parce qu'ils ont tué les prophètes sans raison. Alors, dire que tu tues quelqu'un pour une raison, ou tu tues quelqu'un sans faire exprès, je veux bien. À la rigueur, tu tues un être humain sans raison, entre guillemets, je veux bien. C'est un être humain, monsieur tout le monde, mais là c'est un prophète, c'est le comble. Donc il mérite la colère de Dieu. Il y a un hadith aussi qui dit qu'il est écrit depuis le début des temps, Sabaqat Rahmati Ghadabi. Ma miséricorde devance ma colère. C'est-à-dire Dieu sera beaucoup plus miséricorde aux gens, il y aura beaucoup plus de miséricorde de Dieu qui sera distribuée que de colère divine. Le pardon de Dieu est plus important que sa colère. Donc, la colère est naturelle. Elle fait partie de la nature de l'homme. Mais il faut bien la gérer. La preuve qu'elle fait partie de la colère de l'homme, regardez le hadith d'Abu Saïd al-Khudri radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, fait la prière de l'Asr, et ensuite, il a tenu un discours. Un discours qui va durer jusqu'au coucher du soleil. Et Abu Saïd dira que ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de tout ce qui arrivera jusqu'à la fin des temps. Un autre hadith de Amr ibn al-Hakam qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son discours à la prière de Sous. Et il n'a fait de coupure que pour prier d'Or et l'Asr. Peut-être qu'Abu Saïd al-Khudri est arrivé à l'heure de l'Asr. Et il dira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien omis de ce qui s'est passé et de ce qui va arriver. Et les plus savants parmi nous, les compagnons, sont ceux qui ont retenu le plus de choses ce jour-là. Il a parlé de tout, même des oiseaux qui volent dans le ciel. Très bien. Le hadith est long. On choisit juste la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu a créé les êtres humains différents. Nous sommes différents, nous ne sommes pas clonés. Chaque être humain, physiquement et aussi psychologiquement, l'intérieur et l'extérieur est différent. On a chacun un code génétique et nous avons chacun une nature particulière et nous sommes prédisposés à certains caractères. Vous entendez? Chaque être humain est prédisposé à certains caractères. Mais les caractères peuvent changer, évoluer. C'est pas éternel, défini. Nous sommes nés avec des caractères et c'est à nous de les peaufiner, hein, de les arranger, de les corriger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira « وَمَنْ يَتَصَبَّ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ » Celui qui fait des efforts et qui apprend à patienter, Dieu le rendra patient. « وَمَنْ يَتَعَلَّمْ يُعَلِّمْهُ اللَّهُ » Celui qui fait des efforts pour apprendre, Dieu lui donnera le savoir. Mais c'est vrai que certains, ils ont déjà la patience dès les premiers jours de leur vie. Comme d'autres, c'est ce que le hadith dit, il dit, certains naissent et ils sont déjà, dès leur corps enfance, prédisposés à la colère. Ce sont des nerveux. D'autres sont des calmes, sont doux. Et ça, on le retrouve non pas au niveau des individus, mais même au niveau des peuples. Hein? Alors, il paraît, hein, on n'a rien, j'ai pas fait d'études en ethnologue, ni en sociologue, ni en psychologue, mais il paraît que les Arabes sont des nerveux. Hein? Les Asiatiques sont calmes, sont doux. Faites un stage qui s'appelle le pèlerinage, et vous allez voir au pèlerinage. Vous allez voir le massacre, hein, dans le camp 17, 18, 19. Ouais. C'est à Minen, ils sont répartis dans des camps en fonction des zones géographiques. Par exemple, les Maghrébins, le camp 17, 18, 19. Vous allez voir, ça crie, ça hurle, ça se bagarre. Non. Et malheur à toi, si jamais tu rentres dans la tente et il y a la moitié de la tente qui vide et tu veux t'installer. Même pas rentrer dans le haram. Il y a des embouteillages. Tu vas voir qui c'est qui pousse, qui c'est qui bouscule. C'est pas général, hein. Tu vas dans le camp des Asiatiques, les Indonésiens, les Malais, les Chinois, bref, les gens de l'Asie, les Indo-Pakistanais, qu'est-ce que tu trouves? Le bruit des mouches, c'est le silence. Tu entends les gens qui disent qu'on aime, ils sont doux, ils sont calmes, ils sont pas de blagueurs, pas de disputes. Tu rentres dans la mosquée, tu veux t'asseoir, il se retire, il te donne la place, tu le bouscules, il te fait un sourire. L'autre mot. Dire que, c'est pas qu'on dirait, c'est vrai, les hadiths est là pour le prouver, il y a des gens qui ont une prédisposition à quoi? À ce caractère, hein, la colère. Alors le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que certains sont à la wa inna minhum al-bati'a al-ghadabi sari'a al-fayti. Certains, parmi les êtres humains, se mettent en colère vite, hein, les nerveux, mais ils reviennent vite à la raison, ils se calment. Comme ils démarrent au quart de tour, ils se calment aussi très vite. Hein, ils se mettent en colère vite, et ils reviennent à la raison et se calment. D'autres se mettent en colère très vite et se calment aussi très vite. Je me trompe. Deuxièmement. D'autres, certains, se mettent en colère vite, mais ils se calment vite. Certains, il faut vraiment, vraiment, vraiment mettre le paquet pour qu'ils se mettent en colère. Son rythme cardiaque, leur encéphalogramme, il est plat, c'est ça? Rien à faire. Tu l'insultes, tu le frappes, il bouge pas, il se met pas en colère, et au coup il se met en colère, il revient vite à la raison. D'accord? Ces deux, on peut dire qu'ils ont une bonne note. Hein? Ils sont magnifiques, ils sont super. Donc il ne se met pas en colère, il faut vraiment pousser à bout le bouchon pour qu'il se mette en colère, et s'il se met en colère, il se calme très vite. L'autre, il se met très vite en colère, mais il revient très vite à la raison, ça ne dure pas longtemps. Certains se mettent très vite en colère, et ils mettent du temps pour revenir à la raison. Quatrième cas de figure, ils se mettent très vite en colère et ils mettent des années pour revenir à la raison. Les meilleurs sont ceux qui mettent du temps pour se mettre en colère et qui reviennent vite à la raison. Et les pires parmi les êtres humains, ce sont ceux qui s'énervent pour n'importe quoi, qui se mettent en colère n'importe quand et qui mettent des années pour revenir à la raison. Ce sont les pires, comme dit le hadith, à la, on s'en rouvant, c'est-à-dire on le radame, vanté ou le fait. Donc, il y a une prédisposition avec la possibilité, pardon, le devoir de corriger son caractère. Pourquoi? Pour se mettre en colère quand il faut, au moment qu'il faut, et revenir à la raison, dissiper sa colère quand il faut. On est d'accord? Très bien. Quelle est la bonne colère? Quelle est la mauvaise colère? La bonne colère, c'est la colère qui est suscitée par le jugement que vous portez sur un événement ou sur une personne. Ainsi, lorsque vous voyez quelqu'un qui désobéit à Dieu, quelqu'un qui commet un péché, lorsque vous voyez quelque chose qui déplaît à Dieu, et vous vous mettez en colère, vous avez fait un acte d'adoration. Et vous plaisez à Dieu. Vous entendez? Ça, c'est la colère qui est nécessaire, voire obligatoire. Ils ont dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne se mettait jamais en colère lorsqu'on touchait à sa personne. Par contre, lorsqu'on désobéissait à Dieu, il réagissait. C'est-à-dire, il n'était pas égoïste, le prophète. Il était prêt à supporter, à patienter. Par contre, il ne supportait pas que les gens transgressent les lois de Dieu. Et sa colère avait pour objectif de rappeler les gens à l'ordre et de leur dire « Arrêtez !» Et je fais ça pour vous. Sinon, vous allez peut-être encourir la colère de Dieu, qui est plus grave que la mienne. Donc, se mettre en colère, quand on désobéit à Dieu, on transgresse les lois de Dieu, c'est bon, c'est normal, c'est naturel pour un croyant, c'est obligatoire. D'ailleurs, celui qui ne se met pas en colère, celui qui ne réagit pas, lorsqu'on désobéit à Dieu, celui-là a presque perdu la foi. Et le hadith, vous le connaissez, hadith de l'ange Jibril, rapporté par l'imam Ahmed, Dieu envoie l'ange pour détruire une ville, un village, et l'ange dit au Seigneur, il y a parmi eux un adorateur. Et Dieu dit, tu commences par lui. Car il voyait les gens désobéir, transgresser, et il ne s'est jamais mis en colère pour moi. Allez. Le fait que les gens ne respectent pas la loi de Dieu, désobéissent à Dieu, insultent de Dieu matin, midi et soir, ça l'empêchait pas de dormir. Alors, et si les gens avaient insulté lui, il lui avait pris ses chèvres ou ses moutons, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il se serait mis en colère. Il aurait réagi. C'est un égoïste. Et le musulman ne doit pas être égoïste. Il doit se mettre en colère pour lui, quand il est agressé, quand il est dérangé, mais il doit se mettre aussi en colère quand quelqu'un d'autre est agressé et dérangé, et il doit se mettre aussi en colère quand la loi de Dieu n'est pas respectée. Ça, c'est la bonne colère qui est utile, qui est nécessaire, voire qui est obligatoire la plupart du temps. La mauvaise colère, c'est la colère qui est le fruit d'un jugement que tu vas apporter, il y a une réaction qui est due à quoi? Qui est due au fait que tu vas perdre quelque chose, hein? On va te prendre quelque chose où tu ne pourras pas faire quelque chose qui est haram. Du style, tu vas entrer en boîte de nuit, ouais, et on ne veut pas te laisser entrer. Alors si je m'oblige, tu te mets en colère. Ou tu veux boire un verre d'alcool, tu ne peux pas le boire, tu te mets en colère. Et toute colère qui est le fruit de la jahiliya, de l'ignorance, elle est mauvaise. De même que la colère excessive est haram, celle qui te fait perdre la raison, c'est bien que tu vas désobéir à Dieu, bien qu'au début, elle ait été suscitée par quelque chose de normal et naturel. Exemple, il y a quelqu'un qui désobéit à Dieu, on va prendre le cas de ton fils, de ta fille, elle désobéit à Dieu, ça déclenche en toi le processus colérique, et tu vas réagir outre mesure. Et quand tu te mets en colère pour corriger la personne, pour faire réagir la personne, voilà que ton excès de colère te pousse toi-même à un excès à désobéir à Dieu. Une histoire toute simple, dans son livre, à l'Istanbuli, Tuhfatul Arus, raconte, il dit, un père de famille, une fois, à table, son enfant mange de la badoche, il se met en colère, parce que il en a marre, sans doute, hein, de dire à son enfant « mange avec la main droite ». Cet enfant, par oubli, peut-être, par mégarde, par inadvertance, on ne sait pas. Tout simplement, c'est Shaitan, ok, qui l'a poussé à manger avec la main gauche. Le père se met en colère, une colère excessive, qui ne vaut pas la peine. Il perd la raison. Il corrige l'enfant en le frappant, et quand on est en colère, on ne maîtrise plus sa force. Hein. On ne sait plus ce qu'on fait ni ce qu'on dit, et il lui casse le bras. Ça, c'est une colère qui, à l'origine, est bonne, c'est bien hein, de, d'éduquer ses enfants, de les corriger. Mais parfois, ils vont se mettre en colère. Quand on éduque ses enfants, il faut utiliser la douceur, le dialogue. Mais parfois, certains moments, avec certains enfants, il faut parfois se mettre en colère parce que c'est nécessaire. Mais quand la colère est excessive, ça donne quoi comme résultat? Ça donne des péchés. Une sœur nous racontait comme ça ce qu'il disait son mari. Elle a dit, mon mari, il est dangereux, parce que quand il se met en colère, il perd la raison, il ne se maîtrise plus. Ainsi, le bébé, elle m'a dit, si ma mémoire est bonne, il devait avoir, je ne sais plus, 2 ans ou 3 ans, il pleure, c'était les oreillons, les dents. Il pleure, une demi-heure, il ne veut pas se calmer, et lui, on a marre, parce qu'il veut le calme à la maison. Hein. On aime bien les enfants, mais on les veut. C'est des poupées, hein. On ne veut pas assumer le côté dérangeant de l'éducation des enfants. Il pète les plombs, hein, il se met en colère, et il attrape son fils, et il le claque. Hein. On flatte, le seul, on sait trop quoi. Résultat, en fin de compte, il a les deux jambes cassées, l'enfant. Il s'est retrouvé aux urgences, l'hôpital. Et le mec, tu le vois, se dit ça, c'est Masha'Allah. J'ai dit, Subhanallah, Allahu Akbar. Ouais. Le déguisement du croyant parfait, il balade même avec une canne. Il fait la sunna d'un côté, et de l'autre côté, il a oublié l'essentiel de la sunna qui dit justement l'attardable, autant de fois. Donc oui, la colère peut-être au début, à l'origine positive, mais avec l'excès, elle devient négative. Et ensuite, vous avez une colère qui est ni positive ni négative. Elle est normale, naturelle, tant qu'elle ne dépasse pas les limites, et parfois, elle est nécessaire, comme je l'ai dit, parfois les enfants ne veulent pas se taire, il faut se mettre en colère, mais juste ce qu'il faut pour les rappeler à l'ordre, parce qu'ils ne sont pas encore en état de comprendre toujours vos interdictions, vos obligations. Alors, vous avez vu les différents types de colère qui existent? Alors, voyons quelques versets du Coran, quelques hadiths, qui nous incitent à maîtriser notre colère. Dieu dit dans le Coran, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْرَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dieu parle ici d'un type de croyant, des qualités des croyants, pas des croyants, des mursinoïdes, des croyants excellents, des super croyants. Qui sont-ils? Ils sont ceux qui retiennent, ceux qui maîtrisent leur colère. Dieu les considère comme des mursinoïdes. C'est ce que ça veut dire, l'Islam. Hein, c'est un degré de piété et de foi qui se résume en ces termes. Adore Dieu comme si tu le voyais. Elle est une force lorsque tu adores Dieu au quotidien, 24 heures sur 24. Tu te forces à croire que Dieu te voit en permanence. C'est ça que ça veut dire. Conclusion, quand il y a un événement qui va déclencher la colère, tu es tellement concentré que tu te dis, Dieu me voit et je ne veux pas qu'il me voit en état de colère. Car dans le Coran, il a dit qu'il aime ceux qui sont excellents, les mursinoun. Et il dit que les excellents sont ceux qui étouffent leur colère, je vais le retenir pour plaire à Dieu. Ça dure 2 secondes, hein. La connexion est vite faite. Donc, il se maîtrise. C'est dur, hein. C'est pas évident. Alors, bien entendu, ils étouffent leur colère quand il s'agit de quoi? Il s'agit d'une colère qui est due un événement qui touche l'individu, hein, la personne. Je ne parle pas de la religion de Dieu. Hein. Allez. Tu es remis en question dans quelque chose qui te plaît, que tu aimes, et tu te mets en colère, tu veux te mettre en colère, et tu étouffes ta colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'exemple de la personne qui retenait sa colère. Ainsi, Zayd ibn Sur'ata, rabbin juif, veut tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va voir le prophète, il lui propose un prêt sans intérêt. Il dit, je te prête de l'argent, tu me le rends dans un mois. Avant que le terme soit échu, Zayd va agresser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le tire par sa cape et il lui dit, rends-moi mon argent, vous êtes tous les mêmes, les fils de Abdul Muttalib, vous n'honorez pas vos dettes en temps et en heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met en colère? Non. Il a été agressé physiquement, moralement il a été insulté. Et qu'est-ce qu'il fait? Un sourire. Alors Omar ibn al-Khattab qui est aux côtés du prophète débat au quart de tour. Qu'est-ce qu'il dit? C'est moi ce que fait Omar ibn al-Khattab, puisqu'on a agressé le prophète. On a agressé Dieu, la religion de Dieu. C'est très bon, hein? Sa réaction est très positive. Faut pas vous étonner, c'est ce qu'on doit tous faire, parce que le prophète est agressé. C'est pour ça, quand ils vous ont dit, les intégristes au Nigeria, oui, bien sûr, celui et celle qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam mérite que l'on se mette en colère contre lui. De manière intelligente. Ok? Faut pas que cette colère le pousse à dépasser les limites, à tuer des innocents ou à détruire des choses qui appartiennent aux hommes. Ça doit être une colère intelligente, calculée, programmée pour que les personnes ne recommencent pas. D'accord? On m'a dit au prophète, laisse-moi lui couper la tête. Vous avez vu, il était en colère, mais il garde toujours la raison. La preuve, il demande la permission. Et pas il a tué la personne, et après il a dit, prophète, c'est bien ce que je fais ou non. C'est ça que la religion nous demande. C'est, tu te mets en colère, je veux bien, mais... Bon, je pensais que c'était le mien. Je vais voir justement si je l'ai éteint. Je l'ai éteint. Donc, je me mets en colère, mais il ne faut pas que je dépasse les limites autorisées. Les limites autorisées, c'est quoi? C'est que je vais garder la raison religieuse surtout, qui va me dire, ça c'est haram, ne le fais pas, ça c'est halal, tu peux le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Allah, j'aurais souhaité de ta part que tu lui donnes une leçon et que tu lui expliques comment réclamer son dû. Parce qu'il est mal pris. Et j'aurais souhaité aussi que tu me parles et que tu me dises de lui rendre ce que je lui dois. Prends-le avec toi, emmène-le au trésor public, tu lui rends ce qu'il nous a donné et tu lui rajoutes, je ne sais pas moi, 100 kilos de date de plus, parce que tu lui as fait peur. C'est beau, hein, quand même. Allez, tu le dédommages pour la peur bleu qu'il a eu de toi. Omar prend Zayd avec lui, et Zayd lui annonce que tout ce qu'il a fait, c'était un stratagème pour voir est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien le personnage cité dans les livres qu'il avait. Est-ce qu'il a la qualité de quoi? De la maîtrise. Oui, j'atteste qu'il est l'envoyé de Dieu, parce qu'il se maîtrise. Et on a plusieurs exemples. Hein, le prophète est agressé, le prophète est insulté, et il se maîtrise. Un deuxième exemple qui est puissant, c'est un malentendu avec sa femme, et Aïcha radiallahu anha a dit, t'as l'envoyé de Dieu, et en plus tu te prétends prophète. Hein, c'est toi qui dis que tu es prophète. N'est-ce pas une insulte? Ça a l'air de dire, Et toute femme aujourd'hui le dit à son mari quand il lui monte la tête et elle se met en colère. Ah, c'est ça, les musulmans aujourd'hui. En plus, tu fais la prière et tu te comportes comme ça. D'aller dire que tu es musulman. Ouais. Ouais. Tu dis qu'il faut faire la sunna et tu te comportes comme ça. Aïcha dit la même chose au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comment le prophète a-t-il réagi? C'est comment elle a réagi? Un sourire. Un sourire. Pourquoi est-ce que le prophète a souri? Pourquoi est-ce qu'il lui a pas dit « Va faire tes cordes du sang, tu es mécréante, tu refais la shahada » C'est ce qu'il aurait pu faire, s'il s'était mis en colère, il avait perdu la raison. Hacha. D'accord? Mais non, le prophète a très bien compris que sa femme, si elle a parlé de cette manière, c'est parce qu'elle était en colère. Et il sait très bien que ce qu'elle dit, elle ne le pense pas. Et à quoi ça sert de se mettre en colère si elle est en colère? Colère plus colère égale colère puissance 10. Hein, c'est comme ça que ça commence. C'est pour ça qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit si tu te mets en colère, tais-toi. Tais-toi. Hadith parfait. Et si ta femme te met en colère, tais-toi. Ne réagis pas, ne parle pas. Parce que ce que tu vas dire, ta réaction ne sera pas une réaction pensée, calculée. Tu vas peut-être déborder, outrepasser les limites. De même, à nouveau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha se dispute. Abu Bakr intervient. Aïcha dit Abu Bakr dit je vais être le juge. Et Aïcha dit au prophète parle, mais dis la vérité. Comme s'il allait dire le mensonge. Comme s'il allait mentir. C'est évident que le prophète ne dira que la vérité. Abu Bakr se met en colère. Il a été vite, il a dégainé, et il a giflé sa fille. Pourquoi l'a-t-il giflé? Il a dit, c'est comme ça que tu parles à l'envoyé de Dieu. Elle s'est sauvée, elle était cachée derrière le prophète. Pourtant, elle était en colère avec lui. Pour ça, une femme, elle tourne en rond, elle revient à son mari. Il a beau avoir les défauts, il a beau lui monter la tête. Allez, c'est quand même mon mari. Hein. C'est vrai qu'on a eu des moments pas très joyeux, mais on a aussi des moments de gaieté et de bonheur. Et c'est quand on est en colère, malheureusement, qu'on oublie le bien, les qualités de la personne. Quand on retrouve la raison, on la regarde avec deux yeux et on est plus juste. Le prophète repousse Abu Bakr et lui dit, ah ben, je ne t'ai pas invité pour ça. Je ne t'ai pas invité pour être un bourreau. Je t'ai invité pour trancher. Laisse-nous. Va-t'en. Et se sont réconciliés, et Abu Bakr, par la suite, les voyant réconcilier, dira, je veux faire la paix avec vous aussi. Vous avez fait la paix à deux, faites la paix avec moi. Donc, ces deux exemples. Ces trois exemples nous montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait se maîtriser, n'est-ce pas? Quand il était agressé, quand on touchait à sa personne. Et quand il tenait des propos, quand il tenait des propos, en état de colère, ou quand il tenait des propos qui pouvaient être interprétés de manière péjorative, il levait l'ambiguïté. Exemple. Umm Sulaym, radiallahu anha, avait adopté une orpheline. Et vous savez tous que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait des relations très proches avec Umm Sulaym. Il lui rendait souvent visite et vice-versa. Et un jour, le prophète voit l'orpheline de Umm Sulaym, il la croise et il parle avec cette jeune fille, il lui dit t'as grandi. Hein? T'as grandi, c'est bien, il la flatte. Et il lui fait une dora. Hein? Il lui fait une invocation. Et la vocation, c'est que Dieu fasse que tes dents ne poussent jamais. Mais c'est une invocation en arabe. fait, on dit aujourd'hui, il y a une dame qui dit que Dieu fasse que tu ne grandisses plus. Hein? Ça s'arrête là. Un autre sujet, elle pleure. Elle pleure. Au ciel, dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, j'ai croisé le prophète. Voilà ce qu'il m'a dit, il a fait une drague contre moi, je suis plus, je vais plus grandir. Même les enfants étaient convaincus que quand le prophète faisait une drague, c'était fini. Hein. Et la rakida des petits de l'époque, ils étaient habitués aux drague du prophète. Au ciel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attrape son voile à l'arracher, elle le prend, elle court et elle met son voile en courant. Urgence. C'est une urgence pour elle. Et elle arrive à la mosquée essoufflée. Qu'est-ce que t'as, homme soleil? Eh ben voilà ce que t'as fait, voilà ce que t'as dit. Et le prophète rit. Eh bien, homme soleil, ne sais-tu pas que j'ai demandé à Dieu ceci? J'ai dit à moi, je suis un être humain, comme le restant des humains. J'oublie, je me trompe et je me mets en colère. Ô Seigneur, fasse que si jamais je fais une invocation contre quelqu'un quand je suis en colère, ou si jamais j'insulte quelqu'un par accident, fasse que mon invocation soit pour la personne bénédiction, miséricorde et pardon. Et un homme soleil, ce n'est pas une dua que j'ai faite contre cette jeune fille, mais c'est une dua pour elle. Manière de dire, si ma dua était ambiguë, dans n'importe quel cas de figure, c'est toujours positif pour la personne. Et c'est vrai qu'en arabe, il y a des invocations qui sont ambiguës. Exemple, Taliban Yaminouk, ou bien Sakinatka Ummouk. Le prophète dit à Mouad, que ta mère te perde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Oui ou non? Non. Cette expression en arabe, Sakinatka Ummouk, ne veut pas dire ça. Ça veut dire tout à fait le contraire. C'est comme ça la langue, elle a ses subtilités. D'ailleurs, même nous en français, quand vous parlez, quand quelqu'un vous dit quelque chose d'étrange, de bizarre, quelle est votre réaction? Tu dis, t'es fou. C'est ça? Tu es fou. Ou bien tu lui dis, c'est vrai? Moi, je me souviendrai toujours d'un frère qui était venu du Bled. Je l'aimais bien, je l'aime toujours, et il m'aime bien. Il a parlé, il m'a dit quelque chose de bizarre, je lui dis, et alors, c'est vrai? Il m'a dit, comment ça? Tu me traites de menteur? Il ne connaît pas le français, il ne connaissait pas bien. Pour lui, c'est vrai, ça veut dire que je remets en cause sa parole. En fait, pour nous, c'est vrai, c'est un étonnement. De même, les Arabes faisaient des invocations, et ces invocations signifiaient tout à fait le contraire. Donc, vous voyez ici que, au cas où le prophète se mettrait en colère, et qu'il fait une invocation contre la personne, l'invocation se transforme en invocation pour la personne. C'est pour cela, quand vous vivez avec quelqu'un, vous allez vous marier, ouais. Non, vous voyez ceux qui ne sont pas mariés. Votre partenaire, il ne vous connaît pas, il ne connaît pas votre caractère. Il est bien de lui expliquer et de lui dire, tu sais, quand je crie, ça ne veut pas dire que je suis en colère, parce que je suis habitué, moi, depuis que je suis petit, je crie. J'ai vu mes parents crier, je crie. Parce que c'est vrai que quand quelqu'un crie, et vous n'avez pas l'habitude, ou plutôt pour vous, crier signifie la colère, la réprimande. De certains, quand ils parlent, tu crois qu'il est en train de disputer. Mais non, parce qu'il est comme ça. De même, quand tu me vois excité, je cours dans tous les sens, ça ne veut pas dire que je suis en colère, c'est mon caractère. À vous d'expliquer à votre conjoint votre caractère. Regardez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à sa femme Aïcha, ya Aïcha, je sais quand tu es en colère contre moi et quand tu ne l'es pas. Elle dit, comment tu le sais? Et il lui dit, quand tu es en colère contre moi, tu dis, je le jure par le Dieu d'Ibrahim. Et quand tu n'es pas en colère contre moi, tu dis, je le jure par le Dieu de Mohammed. Elle lui dit, c'est vrai, prophète. Quand je suis en colère contre toi, je ne rejette plus ton prénom, mais jamais ta personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un. Einstein exprimait sa colère à l'égard de son mari qu'à travers un manque, un comportement qui change au niveau de la parole. C'est ça? Dis-moi Rabbi Ibrahim, au lieu de dire Rabbi Mohammed. Allez, nous aujourd'hui, ah, je sais que ma femme est en colère contre moi. Comment tu le sais? Ben, je suis rentré, elle ne m'a pas dit comment tu vas, chérie. Elle m'a dit comment tu vas, Hassan. Hein? Quand elle est bien dans ce papot, elle me dit chérie. Quand elle est pas bien, elle me dit Hassan. Un exemple que je vous donne, hein? Tu peux montrer ta colère sans crier, sans frapper, sans hurler, d'une autre manière. Mais à toi aussi d'être subtil et de comprendre et de tout faire pour désamorcer. Donc, il est bien d'expliquer aux autres quand se mettons en colère, comment on se met en colère, pour que la personne gère la situation. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne qui savait se contenir et se maîtriser. Et il nous a dit laïsa shadidu bis-sukuti. Le mec fort est balèze. C'est pas celui qui démarre au quart de tour, celui qui se met tout de suite en colère. Le fort, l'intelligent, c'est celui qui se maîtrise. Et un hadith sahih dit celui qui étouffe sa colère alors qu'il est capable de l'exprimer pour Dieu, Dieu lui donnera une force extraordinaire. Allez, le fait des efforts pour se maîtriser, la récompense divine est une maîtrise de soi extraordinaire. Tu deviens zen. Ok. Bien, tu te maîtrises. Parce que tu sais te retenir pour Dieu, pour plaire à Dieu. C'est bien de se contenir. Et puis, tu te connais, et si tu sais que tu ne tiens pas longtemps, hein, pour te maîtriser, qu'est-ce que tu fais? Il y a la solution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu te mets en colère, tais-toi. Ça peut être une solution pour certaines personnes. Tu ne parles pas, tu ne dis plus rien du tout. Et c'est bon, au moins, les gens maintenant, ils savent que quand tu dis rien, c'est que tu es en colère. Donc on va le laisser tranquille, on va laisser cumuler sa colère, et puis une fois que la tempête sera passée, on va éviter d'aggraver la situation. C'est bien de le savoir. Deuxième solution, le hadith dit, quand tu es en colère, et que tu es debout, assieds-toi. Ou si ta chambre n'est pas loin, va dans ton lit, allonge-toi dans ton lit. Change de stature, de position, d'endroit. Et si ça ne passe pas, allonge-toi. Hein? Allonge-toi, essaie même de faire une petite sieste. Voilà, si la colère est importante. Le temps est un élément essentiel pour résoudre les problèmes. Les problèmes, vous ne pouvez pas les résoudre de facto. Vous êtes obligé de quoi? De prendre du temps. Un autre hadith dit, la colère vient du diable. Colère qui est négative. Hein? Elle vient du diable. N'avez-vous pas remarqué que celui qui se met en colère, il devient tout rouge? Et le sang circule dans ses veines. On dirait que le diable tourne 10 fois plus dans ses veines, plus vite, et bien qu'il gonfle. Ainsi, le diable est fait de feu, n'éteindra le feu que l'eau. Faites vos ablutions si vous êtes en colère. Allez, prenez une douche. Peut-être que le mot d'eau suffira, peut-être que l'autre il lui faut une douche, peut-être que l'autre il faut la piscine carrément. Oui? Halal. Donc vous voyez qu'on a besoin de faire autre chose, on a besoin, et c'est nécessaire. Ou tu es en colère, va voir ailleurs si je suis. Oui? Sors, mais va pas n'importe où. Hein. Puis là ils se disputent avec leur femme, ils vont au café d'à côté, oui? Ils boivent un coup, ils fument un coup. Mais il s'en va avec ses copains, il rentre à 5h du matin, c'est pire. Toi, tu es sorti en colère, c'est une après qui reste en colère. Parce qu'elle compte les heures. Il est où? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je vous raconte une histoire. J'étais chez moi tranquille, il devait être 11h du soir, en hiver. Hein. Il y avait même du brouillard cette nuit-là. Coup de téléphone, une sœur qui appelle en urgence mon mari. et les goûts. Ils sont disputés en fin d'après-midi, il était en colère, il est parti. 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, il n'est pas revenu. Il était en colère. Tout de suite, mille et un films, la catastrophe. Ta sœur, tu tombes dans le piège, hein, toi aussi tu paniques, t'es obligé. Hein. Peut-être qu'il s'est suicidé. Non mais, vous rigolez, mais c'est ça. Et dans la marque de la vie, ça fait un moment qu'il a disputé sans arrêt, et il a dit, il vaut mieux mourir que de vivre avec toi. C'est bon, il a pris la voiture, il est en colère, il a roulé à 150, il fait du brouillard, ça glisse, vous voyez-le. Ah ben croyez-moi, j'ai passé tous les coups de fil possibles et inimaginables. J'ai tourné comme un fou pour trouver le frère. Mais en vain, quel lui. Frère, il était cool chez quelqu'un, il se l'a coulé douce. Et elle, elle a vécu une nuit d'enfer, et moi une nuit d'enfer, et ma meuf une nuit d'enfer. C'est pas la solution. La solution, elle est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rendre visite à sa fille Fatima et qui fait son gendre Ali. Oui, Ali. Elle a dit au prophète, il y a eu un accrochage entre lui et moi, il s'est mis en colère, il est sorti. Wanted. Le prophète le cherche. Il le trouve où? À la mosquée. Vous avez pigé? C'est un bel endroit où aller, la mosquée. Ali est allongé et il dort. Le prophète va vers lui et lui dit, mets-toi debout. Abu Turab. C'est là où il va lui donner ce qualificatif. Abu Turab. Turab, c'est la poussière, c'est la terre. Parce qu'il était torse nu, c'est ça? Et le sable, son corps s'est imprégné de sable. Donc, le prophète l'a essuyé, il a dit, Abu Turab. Donc, quand on est en colère, il y a une manière d'étouffer, il faut étouffer sa colère, et si on n'y arrive pas, on essaie de la contrôler, de la gérer, de la maîtriser. D'accord? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se mettait en colère, comme on vous l'a dit, pour Dieu. Le hadith dit, celui qui aime pour eux. Donc le hadith dit, le degré de foi le plus élevé, c'est aimer en Dieu, détester en Dieu. C'est ça? Se mettre en colère pour Dieu. Ouais. C'est un degré de foi aussi. Ainsi, il est bien de se mettre en colère pour Dieu. Voyons quelques exemples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans la mosquée. Un homme entre dans la mosquée, il questionne le prophète. Il dit au prophète, comment tu gênes? Mais il pose une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le jeûne du prophète en dehors du ramadan. Et le prophète se met en colère. Et quand vous compreniez la colère du prophète, sachez que il y avait autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam des gens qui voulaient en faire trop. On va les appeler comment? Des extrémistes. Hadith dit al-mutanattihoun, ceux qui exagèrent. Ils viennent voir Aïcha et la questionne. Le prophète, quelle est sa pratique à la maison? Il jeûne de temps à autre, il prie et il dort, il a des épouses, ah. Lui c'est le prophète, et voilà son train de vie religieuse, nous sommes des êtres pécheurs, nous devons être plus pratiquants que lui, ainsi nous allons jeûner tous les jours, dit l'un, veiller toutes les nuits, ne pas consommer de viande, ne pas nous marier, etc. Et le prophète va tenir un discours, il va se mettre en colère. Il dira, on ne l'a jamais vu en colère comme ce jour-là. Il se met en colère, pourquoi? Parce que il enseigne la religion, il est l'exemple, et les autres ne veulent pas se limiter à sa sunna. Ils veulent en faire plus. Manière de dire, écoutez, vous ne comprenez rien, je suis le modèle, celui qui connaît Dieu le plus et qui le craint le plus et qui l'adore le mieux. suffit. Faites ce que je vous ai dit, ne cherchez pas à faire plus, ne cherchez pas une petite bête, sinon vous êtes perdu. Mais si le prophète se met en colère vis-à-vis de cet homme qui vient le questionner sur sa pratique du jeûne en dehors du ramadan pour s'imposer une cadence supérieure à la cadence du prophète. Il veut être plus royaliste que le roi. Et le prophète se met en colère, et Omar, voyant le prophète en colère, c'est ce qu'il fait. Il intervient et il dit « Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasoula. » Nous sommes reconnus Dieu, Allah comme Dieu, l'islam comme religion, le prophète comme envoyé. Allez, il calme la colère du prophète, il apaise le prophète en disant « Oh, envoyé de Dieu, c'est bon. » Il met l'os de côté, il dit « C'est bon prophète. » On a compris, lui il n'a pas compris, mais je vais lui expliquer avec ses paroles. Et Omar pose une question. Bref, le hadith est énorme, mais on s'arrête ici. Ce qui est important ici, c'est que, oui, il est bien de se mettre en colère. Quand on enseigne la religion, parfois, à des gens qui ne veulent pas comprendre ou qui cherchent la petite bête, pour leur montrer le danger. Donc on peut dire des choses importantes. Il disait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait discours parfois, il était rouge, on voyait la colère sur son visage, pour montrer la valeur et l'importance du discours qu'il tenait. Donc c'est possible. Maintenant, il y a des colères qui n'ont pas lieu d'être. Un compagnon qui est au souk, le marché, il est en train de faire une transaction avec un commerçant juif. Et le commerçant juif, quand il parle, il prononce cette formule. Il dit « Je jure par celui qui a fait de Moïse la meilleure des créatures. » Sahabé du Minoïde. J'ai rien compris. Il dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me frappes? Le compagnon lui dit, tu as le culot de dire ça alors que l'envoyé de Dieu est parmi nous. Allez, tu oses dire que Moussa, alayhi salam, c'est le meilleur des créatures, le meilleur des prophètes, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est parmi nous. Mais le sahabi n'a pas supporté le fait que ce juif donne plus de valeur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien que Moïse c'est notre prophète. Qu'est-ce qu'il a fait de lui? C'est beau, c'est fort quand même. Il est parti direct voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prévu que c'est terrible. Regardez comment on accuse l'islam aujourd'hui. Regardez comment les musulmans vivent avec les juifs. Le sahabi, le juif, subit la justice d'un musulman, il veut se plaindre chez qui? Chez le chef des musulmans. Pourquoi il va se plaindre chez le chef des musulmans? Pourquoi il ne va pas se plaindre chez le chef de la communauté juive où là il rentre chez lui, ramène la flague et où il appelle ses copains? Pourquoi il va chez le chef des musulmans? Pourquoi? Parce qu'il est convaincu. Ce juif est convaincu que le prophète est juste et qu'il va être impartial. Il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ya Muhammad, voilà. Le compagnon est arrivé entre temps. Voilà ce que j'ai dit et voilà ce qu'il a fait. Et le prophète se met en colère. Le prophète se met en colère. C'est bien la preuve qu'il est prophète, franchement. Si c'était un imposteur, un dictateur, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait couronné, mis une médaille, légion d'honneur ou je ne sais trop quoi, au sahabi, et puis il aurait fait exécuter l'autre. Mais non, le prophète se met en colère. Contre qui? Contre son adepte, son élève et lui dit: ne m'élevez pas au-dessus des prophètes. Ne savez-vous pas que le jour de la résurrection, on va sonner la trompe, tout le monde va tomber évanoui, et je serai le premier à me réveiller, mais en me réveillant, je trouverai Moïse déjà réveillé. Et je ne sais pas, le prophète dit, je ne sais pas si il se réveillera avant moi, il reprendra conscience avant moi, ou il n'a pas subi la nafra. Et peut-être qu'il n'est même pas tombé évanoui, parce qu'il est tombé évanoui sur terre quand il a demandé à Dieu, je voudrais te voir, et a regardé ma montagne, et il est tombé. Il a l'air de dire, chaque prophète a son charme. Et n'essayez pas à un croyant de dire que je suis meilleur que Jonas, fils de Matthieu, Younes ibn Matta. Entre nous, hein, le prophète, c'est le meilleur. Mais non, il est supérieur à tous les prophètes. Tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Mais l'adab, la décence ne veut pas que, en la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous parlions d'un autre prophète d'une manière qui le rabaisserait, et c'est la modestie et la sincérité de notre envoyé de Dieu. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la colère du prophète vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis d'un compagnon. Et le prophète dira : celui qui agresse un citoyen non musulman qui vit parmi les musulmans, la colère de Dieu se battra contre lui. Vous entendez ? La colère de Dieu s'abattra contre celui qui agresse un non-musulman qui vit parmi les musulmans, car il est en sécurité. Qui c'est qui le met en sécurité ? Qui c'est qui lui a donné la sécurité à ce non-musulman ? C'est Dieu et le prophète, et on n'a pas le droit de quoi ? De lui retirer ce droit. Je ne sais pas que c'est mignon quand même le sahabi qui nous claque à l'autre. Ça prouve à quel point ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un autre hadith hein, qui dit Abu Bakr, qui a aussi remonté une droite à un juif qui a fait ça. Ça, c'est l'amour qu'avaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut les corriger quand ils se trompent. D'accord ? Donc, il vient de se mettre en colère quand c'est nécessaire, mais il faut maîtriser sa colère pour éviter de désobéir à Dieu. On est d'accord ? Maintenant, il y a une colère. Elle n'est ni positive ni négative. Elle est nécessaire, elle est mubaha. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand tu as une mauvaise note, tu ne vas pas lui faire 4 bises. Ouais. Et une mauvaise note, tu vas essayer de comprendre pourquoi. Et si c'est parce qu'il n'a pas voulu apprendre ses leçons, parce qu'il a regardé le film, à ce moment-là, c'est bien de se mettre en colère pour lui montrer votre désapprobation et lui montrer que ce qu'il a fait, c'est dangereux pour lui. Donc, oui, ça fait partie des méthodes, des moyens qu'on doit utiliser pour éduquer, rappeler les gens à l'ordre, la colère. Là, il y a beaucoup de choses à dire sur la colère, on ne peut pas tout dire, parce que ça nous prendrait des heures et des heures, mais peut-être que ce qui vient d'être dit est suffisant pour aujourd'hui, et peut-être que vous allez peaufiner tout ceci à travers vos remarques, vos questions. Je découvre vos conférences. Pouvez-vous vous présenter ? Entre parenthèses, si vous êtes professeur ou chercheur. Je n'ai rien de tout ça. Je suis un musulman, tout simplement, qui essaie de faire son devoir en transmettant ce que Dieu m'a permis d'apprendre. Pouvez-vous nous parler de l'élection du Conseil consultatif des musulmans ? Pensez-vous que cela s'est bien passé? N'est-ce pas une stratégie pour créer la division entre les musulmans? Le fait de vouloir représenter trois tendances diverses de l'islam français. Donc, on en a déjà parlé, mais ça évolue. Hein, il y a des nouveautés. Les 100 minutes, c'est ça? Ouais. Donc, je vais vous dire deux petits mots hein, sur les nouveautés, hein, l'évolution, mais je ne vous dirai pas tout aujourd'hui. D'accord? Parce que tout n'est pas fini. À la choléra. Ça va faire 3-4 mois. C'est vrai que j'étais très très en colère contre notre ministre. D'accord? De l'intérieur. Parce que j'estime que son traitement de l'islam, de la question de la consultation, est un organe représentatif du culte musulman en France, son traitement était indigne, ignoble, injuste, antidémocratique, antilaïque. D'accord? J'ai dit ce que je pensais, et ce que je disais était vrai, j'ai rien à regretter. Si, peut-être dans la forme, parfois, je pète les plombs, et dans la colère, on ne sait pas ce qu'on dit toujours, on n'utilise pas toujours les bons mots. Quoi qu'il en soit, on est obligé de reconnaître. D'accord? Parce que le musulman, il doit être juste. Que le ministre, il n'est pas bête. Il n'a jamais été, mais il a failli frotter dans ce domaine. Et que quand même, il a des qualités. Parmi ses qualités, c'est qu'il n'a jamais fermé la porte au dialogue. Et quand je parle du dialogue, c'est le dialogue avec nous, hein, les musulmans, modestie oblige, nous les musulmans. Mais le dialogue avec les pseudo-musulmans, ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Les mouftis sans mosquée, les mosquées sans fidèles. Ou les musulmans de circonstance. Ouais. Il y a quelqu'un qui est extraordinaire. J'ai découvert hier. Ça, il m'a comblé, là, vraiment. Allah est bête. Allah, faites des deux à un pour qu'Inch'Allah, ils soient encore plus musulmans. Il est déjà un petit peu, mais il faudrait qu'il le soit un peu plus pour nous et pour lui. Il s'appelle Vincent Gesser, un sociologue, université de Marseille d'Aix-en-Provence. Magnifique. Pour ceux qui organisent des conférences, appelez-le, hein, c'est le top. Il a parlé d'islamophobie. Ce qui se passe maintenant, hein, pourquoi les gens détestent l'islam. Bref, alors il m'explique qu'il dit à Marseille, le maire de Marseille, Godin, c'est ça? Il veut lancer le projet de la grande mosquée de Marseille, c'est ça? Avec Rouaidia, subhanallah, c'est moi qui dis subhanallah, mais lui il dit. Depuis que Godin il a lancé ce grand projet de la mosquée de Marseille, avec des musulmans. Qui n'avait de musulmans que le prénom et le nom, vient frapper à la porte de Godin avec un verre de pastis dans la main, et entre deux gorgées, disent voilà la mosquée comment elle doit être, voilà qui c'est qu'il faut mettre. Allez, les musulmans des bars veulent passer au minbar. C'est lui qui dit ça, Vincent. Et il a raison, Vincent. Les arabistes, les opportunistes. C'est terrible, hein. En fait, ils cherchent la gloria, la notoriété, un peu de flousse, par-ci, par-là, mais c'est bas, vous comprenez? Qui c'est qui doit représenter le culte musulman? Ceux qui respectent le culte, oui ou non? Ceux qui pratiquent le culte? Allez, je ne comprends pas pourquoi notre ministre, il veut nous imposer des gens qui ne savent pas sur la Qibla. Non, mais c'est le comble, vous ne trouvez pas? Des gens qui contredisent le culte musulman 24 heures sur 24, qui ne sont pas représentatifs, sont représentatifs d'eux-mêmes. Ils peuvent être représentatifs de musulmans, bien sûr. Mais nous, on ne veut pas un organe qui va représenter les musulmans. Nous voulons un organe qui représente le culte. C'est pas la même chose. Les musulmans, t'as des bons, des moins bons, des tordus, des super, des pratiquants, des non-pratiquants, des aboubacs et puis des homosexuels. Vous avez de tout. Nous, on ne peut pas représenter. D'ailleurs, ça ne se fait pas une représentation communautaire en France. Ça n'existe pas. Nous sommes tous des citoyens, et c'est l'État qui nous représente, et on est soumis aux mêmes lois. Mais on veut le culte. Ben, le culte, c'est médiatique. Un cultuel, c'est ça. Un religieux. Mais non. On veut le désigner des... Bon, je calme ma colère. Sinon, je vais être en contradiction avec mon cours. Donc, le ministre n'a pas claqué la porte à ceux que les autres appellent les fondamentalistes, vous et moi, d'accord? Parce que, comme l'expliquait Vincent Gesser, l'islamophobie, elle est due, entre autres, à des musulmans qui, à la télévision, tiennent des discours tels. Il y a deux types de musulmans en France, les modérés et les intégristes. Les modérés, c'est vous. C'est moi. Comment tu t'appelles? Je l'ai entendu, parce que je l'ai prononcé. Vous avez vu là, l'émission d'Arlette? Ah voilà, c'est la haine. La colère, hein, t'as cassé le poste. Ah, donne-le-moi là, dans le... Ça, c'est pas une bonne colère, mon frère, si tu casses ton poste. Non. C'est vrai que. Il y a de quoi se mettre en colère, hein, franchement, quand tu vois ça. Mais c'est ça qu'ils veulent nous imposer. Des mecs comme ça et des mecs comme ça. Alors le ministre n'a pas claqué la porte. Mieux, c'est ce qu'il a fait. Il est monté là-haut. Ah, il est venu. Il est rentré ici où vous êtes là. Et il est venu, il a assisté au conseil d'administration de l'OIF. Dimanche. Il a téléphoné et il a dit, je voudrais assister à votre conseil parce que les frères devaient se réunir dimanche pour parler de la consultation. Est-ce que on claque la porte, on se tire ou on continue? Parce qu'ils vivent l'enfer, les frères, hein, les discussions, les tractations. Donc, ils ont dit, on va prendre une décision dimanche. Qu'est-ce qu'il leur a dit, le ministre? Il leur a dit, je viens, je vais assister à votre conseil pour vous expliquer et vous convaincre de rester. Parce qu'ils savent très bien que sans l'UEM, il n'y a pas de consultation. Hein. Ça, ils l'ont compris, ça. Parce que 80% de la base, c'est l'UEM. Ça, ils le savent. Hein. Le ministre l'a dit, tout le monde le dit. Il n'y a pas de consultation. C'est ma folie, hein, les autres. Les autres fédérations, associations, c'est des... Hein, des coquilles, avec tout le respect. Bref. Il assiste au conseil. Chapeau. C'est ce qu'on veut, nous. Moi, c'est ce qu'on veut. On veut que le ministre vienne et assiste à ma conférence. Pas qu'il m'envoie une balance de balance. Non, mais c'est vrai. Moi, je voudrais qu'il insiste pour qu'il écoute. Et si je me trompe, qu'il me corrige. Comme moi aussi, je voudrais assister à ses conférences. S'il dit vrai, je dis, tu dis vrai. S'il se trompe, je dis, tu te trompes. Il a assisté au conseil d'administration de l'OIF. Alhamdoulilah. Et il a dit à l'émission 100 minutes, hein, quand ils ont parlé de l'OIF, il a dit non, ce ne sont pas des intégristes, des fondamentalistes, ce sont des clichés qu'on a. La preuve, je vous subhanallah, yani, comment les choses changent. Le ministre a dit ça lundi, et le secrétaire général de l'OIF, Fouad Alaoui, il passe en antenne 2 au journal de 20h. Et il s'exprime sur la consultation. Alhamdulillah. C'est pas une mi'mah, ça. La king, c'est pas ce que les frères ont dit. Allah, vous savez pas comment ils souffrent, les pauvres. Ils auraient pu, depuis longtemps, jeter l'éponge et dire, ils se battent, vous comprenez? Ils se battent pour que le message, le discours... du bon sens passe pour que le culte musulman soit représenté et représentatif. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les frères ont accepté de continuer et de discuter. Vous entendez? Ils ont accepté de continuer et de discuter. Il n'y a rien qui est défini, qui est arrêté. Comprenez ça. Pour l'instant, il n'y a rien de... Tout est encore, ils vont se réunir, je crois, le week-end prochain, pendant 2 jours, le 19 et le 20. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ces 2 jours? Ben, ils vont sortir avec quelque chose. Ça passe ou ça casse? mais m'attraper. Moi, j'ai la conscience tranquille. Hein? Je sais que ces gens-là, ils ne feront que ce qui est bon pour l'islam et le musulman. Sinon, allez, nous, on continue notre travail sur le terrain. Donc, je vous dirai plus de détails la prochaine fois, Inch'Allah. Mais vous pouvez dormir tranquille. Est-ce que le prophète a obligé la barbe? Oui. La création de l'homme à l'école, mon prof m'a dit que l'homme est apparu par une bactérie. Est-ce vrai? Et la bactérie, elle vient d'où? Posez la question à votre prof, et puis la bactérie vient d'où? Si vous dites qu'elle vient des atomes, je dis les atomes viennent d'où? Hein? Remontez toujours, jusqu'à un moment donné, dites-lui, monsieur, comment les atomes qui ne sont pas vivants sont passés donc du monde qui n'est pas vivant au monde vivant? C'est la difficulté. Comprenez? Ils n'ont pas de réponse à cette question. La matière est inanimée, n'est pas vivante, pas d'apada. Nous avons une âme, nous sommes vivants. Comment vous faites pour passer de ça à ça? Laisse la bactérie. Aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut pour fabriquer un homme. On sait ce que c'est que l'ADN, l'ARN, on sait, tout ça c'est. Faites-moi une petite potion magique et fabriquez-moi un homme. Je vais vite, hein, parce que on a déjà répondu à ces questions. S'il y a une femme qui est enceinte et qui ne fait pas le ramadan, est-ce qu'elle doit rattraper le jour qu'elle a raté? Est-ce qu'elle doit faire une... Bien sûr qu'elle doit rattraper ses jours. Hein. Si elle n'a pas jeûné pendant le ramadan, elle rattrape ses jours. La barbe. J'ai répondu. J'ai pas répondu. J'ai pas crié pour ça. On y a déjà répondu à la barbe. Bien sûr, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il avait qu'il fallait porter la barbe. Mais je vais encore vous le dire une deuxième fois. Soit le frère qui pose ou la sœur qui pose la question porte la barbe. D'accord? Pourquoi vous rigolez la sœur? Bon, d'accord. Donc c'est un frère qui pose la question. Enfin, parce qu'en principe, c'est pas le problème des sœurs. Les sœurs, c'est le hijab. Donc soit le frère qui pose la question porte la barbe. Donc, il n'y a pas besoin de ma réponse puisqu'il la porte. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il pose la question? Ben, il pose peut-être la question parce qu'il voit des frères qui n'ont pas de barbe et il voudrait qu'ils portent la barbe. Donc, il attend à ce que je fasse un speech sur la barbe pour inciter les gens à porter la barbe. C'est bien. C'est une très bonne intention. Moi, j'y vais. C'est super. Hein? C'est parce que moi, j'ai des priorités. C'est pour ça que je ne ferai pas un speech sur la barbe demain. Peut-être dans 10 ans, Inch'Allah. Mais, mon frère, ouvre tes oreilles. Ce n'est pas parce que toi tu portes la barbe et l'autre ne porte pas la barbe que tu vas prendre la tête aux gens. Parce que si c'est comme ça qu'on doit faire, le frère qui ne porte pas la barbe, même à coup, il fait des choses que toi tu ne fais pas. Le problème d'abord, c'est qu'elle est visible. Oui ou non? Mais le reste que tu dois faire et que tu ne fais pas, on ne le voit pas. Conclusion, si tu pratiques une chose, dis femme de l'Islam, tu la pratiques, Allah il t'a donné le courage, la force, je ne sais trop quoi, et tu le fais, et laisse les autres. Ils sont vaccinés majeurs, et ils le savent. Maintenant, ils ont des raisons. Et moi, je n'entre pas dans les cœurs et les intentions. Je ne cherche pas à poser la question, genre pourquoi tu la portes ou tu ne la portes pas, ça ne m'intéresse pas. Chacun adore Dieu en fonction de ses connaissances, en fonction de ses convictions, en fonction de ses capacités, en fonction des circonstances dans lesquelles il vit. Et je n'ai pas à lui dicter la conduite. Tout ce que je fais, j'essaie de servir d'exemple et je laisse les gens prendre de l'exemple ce qu'ils veulent et j'incite avec des bonnes paroles. Mais j'en fais quand même pas toute une salade. Vous comprenez? On a des priorités, on a des urgences. Je suis étudiant en deuxième année d'histoire. Et lors d'un cours, un prof a dit que le prophète a dit à ses contemporains que tous ceux qui ont vécu avant le prophète Mohammed iront en enfer. Est-ce vrai? Sachant qu'il n'était ni juif ni chrétien. Non, c'est faux. Tous ceux qui ont vécu avant le prophète vont subir la même chose que nous qui vivons après le prophète. Ceux qui ont cru en leur prophète sont des croyants, ceux qui ont refusé consciemment de croire au prophète ne croient pas, tout simplement. C'est le même système. Entre Jésus et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui ont suivi Isa sont des croyants. Et ceux qui ont refusé de suivre Seigneur Isa ne croient pas. Je voudrais savoir au sujet du mois de Shawwal, peut-on réunir deux intentions? L'intention de rendre les dettes, les jours à disposition, et les séjours de Shawwal, car chacun a un avis sur cela. Éclairez-moi, s'il vous plaît, sur ce sujet. Sachant que cela fait des années que je regroupe les deux intentions aujourd'hui, il y a une interrogation qui se pose. J'ai lu une fatwa de Cheikh Ajid al-Nashmi, Hafidahullah, celui qui répond aux questions dans la revue Mujtaba, très grand savant du Koweït. Ce n'est pas sa fatwa, mais c'est celle de plusieurs autres savants qui disent que, oui, une femme peut faire à la fois les jours de Shawwal avec l'intention de faire les séjours de Shawwal et rattraper avec une double intention, elle fait d'une pierre deux coups. C'est leur avis. Et il y en a d'autres qui disent non. Tu choisis, ma sœur. Il y a une divergence. Chaque savant fonde son avis sur des preuves. Elles valent ce qu'elles valent. Tu choisis la solution. Si tu veux faire d'une pierre deux coups, tu fais d'une pierre deux coups. Si tu veux faire les jours de Shawwal et après rattraper tes jours, c'est ton droit. Et il ne faut pas se disputer, se bagarrer quand il y a de la divergence. Il ne faut pas dire tu as tort, tu fais n'importe quoi, ou là j'ai raison. Non, chacun fait ce qu'il veut, tant que nos savants nous ont donné deux pistes. Est-ce que le jour du jugement dernier, l'eau sera feu et le feu sera de l'eau? Waouh. L'eau sera feu. C'est pas possible, hein, de l'eau qui vient du feu, non? Parce que l'eau, quand elle dépasse les 100 degrés, elle devient quoi? De la vapeur. Avec les hadiths, ce que Dieu dit dans le Coran, c'est que l'eau sera bouillante. Si vous entendez par l'eau sera feu, le fait que l'eau sera bouillante, c'est bien qu'elle va détruire la personne. Comment? Ah, ouais, mais ça, c'est pas dans l'au-delà, ça. Le jugement dernier, c'est autre chose. Vers la fin du monde, quand l'antéchrist, le Masih Dajjal, reviendra, oui, il aura avec lui des prodiges, il aura avec lui de l'eau et du feu. Et il dira aux gens de se jeter dans l'eau, et ce sera l'enfer. Et ceux qui se jettent dans le feu, c'est le paradis. Mais ce qu'il forcera. Oui, ça c'est vrai. Est-ce que la pilule est halal? Ça dépend laquelle. Parce que des pilules, il y en a beaucoup maintenant. Il y a la pilule du lendemain, c'est ça? Ouais. La meuf, elle s'en va en l'air matin, midi et soir. Elle tombe enceinte, elle prend une pilule. Si elle l'a oubliée pour tuer le gars, c'est ça le lendemain? Non, si vous voulez, la contraception. Hein. Parce que la contraception, il n'y a pas que la pilule, il y a d'autres modes de contraception. Oui, contraception n'est pas haram, mais vous gérez, vous faire votre planning familial. Si on a mis l'intention du Hajj, peut-on emprunter de l'argent pour accomplir le pèlerinage? En principe, si vous n'avez pas les moyens, le pèlerinage n'est pas obligatoire. Mais si vous voulez y aller cette année parce que vous êtes fonctionnaire, vous avez 15 jours de vacances pendant le pèlerinage, et après vous êtes fui, il faudra attendre 10 ans, et que vous n'avez pas encore l'argent, mais vous allez l'avoir, parce que vous allez avoir une entrée d'argent, vous allez pouvoir rembourser votre dette car vous allez toucher votre salaire. Oui, vous pouvez emprunter si vous avez des garanties de rembourser.
La civilisation et la culture musulmane sont les parents pauvres de l'histoire. Cette civilisation prodigieuse qui a profondément marqué de son empreinte l'histoire de l'humanité reste cependant mal connue. Pour la découvrir, un voyage dans le temps et l'espace vous est offert le vendredi de 20h à 22h au cours de l'émission La Prophétie. Cette émission, animée par des personnes compétentes dans leur domaine respectif, vous est présentée par Pastel FM 99.4 en collaboration avec l'association Rencontres et Dialogues.
Bien, ainsi s'achève notre émission. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Charles, à partir de 20h. Passez une très bonne soirée. On va passer le relais à donc, l'émission Safina sur la culture du choix religieux proposée par GMF Section Tourcoing. Donc, sans plus attendre, petite introduction musicale pour passer le relais à donc, l'équipe qui vient d'arriver.